taverne du vieux Londres, où se retrouvaient des étrangers. Nos voix criblées de joie montaient de l'ombre, et nous écoutions nos cœurs chanter.
Bonjour Monsieur Kogan, bonjour Monsieur Edmond. Nous nous retrouvons pour une nouvelle édition, une nouvelle émission de Je m'ennuie bien. Nous sommes ensemble pour une heure. Nous allons parler un petit peu d'actualité, beaucoup de culture. Restez avec nous.
Ah bon, j'allais refaire une blague sur la culture, mais non, après ça agace Monsieur Kogan. Monsieur Kogan est là donc ?
Oui, absolument. Et alors c'est très étrange, les gens ne peuvent pas comprendre, mais je crois que nous avons déjà vécu cette séance.
Une sensation de déjà vu.
Comment ils disent ? Déjà vu ?
On peut le dire avec l'accent français.
Non, mais j'aime bien quand ils le mettent, parce qu'on le trouve dans plein de séries, en fait, des séries de pays tout à fait étranges. Ils ont gardé cette expression. Pas seulement les anglophones, d'ailleurs. Allez, on reste en Angleterre, justement. Royaume-Uni, l'ex-prince Andrew sous-louait des cottages dans la résidence où lui-même ne payait pas de loyer.
Eh bien, écoutez, voilà un garçon plutôt malin.
Un homme qui a le sens des affaires.
Ah oui, ça, c'est sûr. Allez, c'est dommage, Madame Ginette n'est pas là pour commenter les infos du Royaume-Uni. On lui fait un petit coucou, Madame Ginette.
Après, les informations sur la famille royale ne sont pas forcément celles dont elle raffole le plus.
Alors, en revanche, les moustiques, écoutez bien, raffolent de quelque chose maintenant. Des moustiques apprennent à aimer l'anti-moustique.
Des drogués, voilà, c'est tout.
Ah, j'ai bien peur qu'il s'agisse d'un phénomène d'adaptation.
Voilà, ah, ils sont forts, les moustiques. Allez, une...
Alors, à ce sujet, pardon, je vous coupe la parole, ce qui est très mal, en particulier en radio.
Ce qui est très mal, vous l'écrivez comment, mal?
Vous avez peur que j'ai pas mon bac cette année parce que mon niveau en orthographe ne serait pas suffisant?
C'est pas ça, mais ceux qui coupent la parole.
D'habitude.
Oui, vous avez bien raison. Il y a un récent article dans Le Monde, justement, parce qu'on parle d'adaptation des animaux, un long et très fouillé. Il y a un article sur l'adaptation des animaux soumis aux contraintes urbaines. Et donc, c'est une sous-discipline désormais autonome qui s'appelle l'évolution urbaine.
Sous-discipline des animaux? Non, de ceux qui étudient, vous voulez dire?
Oui, bah oui.
Ah ouais, non, ça m'étonnait.
Des scientifiques.
Oh, ils sortent pas. Bon, ouais. Allez, une citation qu'on doit à Léonie Cassel, fille cadette de Monica Bellucci et Vincent Cassel. Donc j'imagine que s'ils la mettent dans des magazines, c'est parce qu'ils veulent qu'elle fasse du cinéma, hein, parce que je sais pas. Là...
Alors, écoutez, ils en ont marre de la nourrir, ils en ont marre de payer pour rien.
C'est sûr
que si c'est pour devenir avocat fiscaliste, c'est pas la peine. Hein.
Écoutez bien, c'est magnifique. J'ai hérité de la quête d'harmonie de ma mère, de l'esprit aventureux de mon père, et plus fort, de la franchise sans détour de ma sœur aînée d'Eva.
Comment on peut hériter de sa sœur aînée?
Allez, je veux pas savoir, écoutez.
Il y a un truc chelou là.
Je veux pas savoir.
C'est étrange.
C'est... Bon, enfin, on n'en doute pas, elle va hériter, oui.
Ah ouais, ça.
C'est un pays d'héritiers de toute façon.
Encore une qui nous fera oh là là, mais vous savez, j'ai passé des castings, c'était dur.
Ouais.
Allez, un titre que j'ai gardé juste pour le plaisir de Monsieur Kogan.
Oh non, pitié.
Monsieur Kogan, ouvrez bien vos ouïes.
Pardon, excusez-moi. Allez-vous nous parler de ce film, Monsieur Kogan?
De quel film?
Qui a le titre que vous venez d'évoquer? Vous ne l'avez pas vu passer une comédie française qui s'appelle Pour le plaisir?
Oh là là,
non, mais je vais pas voir n'importe quoi au cinéma, moi.
Ah oui, avec Monsieur Cluzet, figurez-vous.
Ah oui, je vois très bien, oui. Oui, Monsieur Cluzet en tenue de bain sur l'affiche.
Non, ils sont dans une toge.
C'est un drap, en fait. On comprend bien qu'il fuit.
Il fuit.
Il fuit, c'est l'âge, ça.
Habillé du drap qui les a couverts durant la nuit précédente.
Ah, super. Vraiment. Ça.
Allez, attention. Ça, Monsieur Kogan, écoutez bien. En citant Gandalf, le pape Léon XIV rappelle les liens étroits entre Tolkien et le catholicisme.
Alors, absolument. Il existe d'ailleurs un livre qui s'appelle « Le Dieu de Tolkien », écrit par un prêtre qui s'appelle...
Attention, Monsieur Kogan cherche dans sa bibliothèque.
Absolument, c'est exactement le mouvement que je viens de faire.
Ne vous faites pas tomber un livre sur la tête.
Voilà. Et donc, C'est intéressant de rappeler que Tolkien était un catholique, ce qui est une minorité en Grande-Bretagne, hein, comme vous le savez. D'ailleurs, le catholicisme ou le christianisme, plus généralement, est assez présent dans l'œuvre de Tolkien, hein, comme elle est encore plus présente chez l'ami de Tolkien, auteur de Narnia, évidemment.
Alors, est-ce que vous savez pourquoi le pape a cité Tolkien ?
Oui, mais vous allez nous le dire, alors je vous écoute.
Ah ben, c'est parce qu'en fait, donc dans son encyclique, il en parle, et bon, il rappelle donc c'est un catholique pour faire un peu la nique aux libertariens de la Silicon Valley qui essayent de s'emparer de l'œuvre et de l'univers de l'écrivain. Voilà.
Oui, mais c'est une fois de plus, ça ne marchera pas. Il faut qu'on soit rassuré là-dessus.
Tolkien restera libre.
Non, mais l'œuvre de Tolkien a été, enfin, tout le monde a tenté de la récupérer. L'extrême gauche, l'extrême droite, l'extrême centre, enfin, tout le monde. Bon. Et en fait, tout ça n'a aucun sens. L'œuvre de Tolkien, c'est l'œuvre de Tolkien. Point. Voilà.
Dites un fervent lecteur de Tolkien. Merci, monsieur
Non,
Kogan.
Mais à un moment donné, c'est vrai. C'est complètement anachronique et ça n'a pas de sens.
Un geste qui nous vient de Hongrie. Et comme quoi il s'est passé des choses en Hongrie depuis le départ de celui qu'on ne nomme pas.
Ah bah non.
Les députés...
Vous dites son nom trois fois, il apparaît, merci.
Si quelqu'un au nom du Parlement français nous écoute, faites passer le message. Les députés baissent leur salaire de 40% pour soutenir les finances publiques et lutter contre la corruption.
Bon.
Hongrie. Eh oui.
Bon, alors, pour une fois, je ne vais pas être d'accord avec vous. Ça. C'est-à-dire que je peux comprendre que les députés hongrois fassent ça, ça donne c'est un symbole. Mais en France, franchement, ça flirterait énormément avec une forme de démagogie dont la classe politique n'a pas bien besoin. Surtout ces jours-ci où elle est déjà vraiment très, très, très engoncée dans quelque chose de pas très facile. Voilà.
Ouais, c'est possible. Enfin, je remarque quand même qu'ils font beaucoup de démagogie, mais jamais celle qui touche à leur portefeuille quand même. Mais bon,
oh, je rappelle
c'est
quand
pas
même
grave.
Qu'un député touche 5 000 euros par mois, ce qui n'est pas non plus...
Ouais, voilà. C'est quand même largement au-dessus du salaire médian. Pour ce qu'ils font, je trouve que c'est beaucoup trop. Mais bon, on pourrait en reparler.
Je ne suis pas du tout d'accord.
Ou plutôt
bon,
pour ce qu'ils font pas.
On en reparlera.
Mais absolument, Monsieur Kogan. Allez, l'équipe norvégienne, et j'ai envoyé la photo à Monsieur Kogan qui au début s'est demandé « Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ?» Eh bien, l'équipe de foot norvégienne, et je ne parle pas souvent du mondial de foot, et je vais en parler encore moins cette année, parce que alors, quand vous voyez que ce sport qui est soi-disant populaire, pour regarder les matchs, il va falloir payer. Pour aller au stade aux USA, il va falloir payer. Alors là, je vous dis même pas combien, puisqu'il ne reste plus de place, c'est 2000 euros la place.
Non, mais c'est diffusé sur M6, arrêtez.
Mais pas tous les matchs, il y en a beaucoup, c'est sur je ne sais plus quelle chaîne, elle est payante,
oui,
monsieur Kogan.
Oui, franchement, qui veut regarder République du Congo, Curaçao, quoi, je veux dire.
Moi, c'était la seule que je voulais voir, c'était le seul match que je voulais voir, c'est lamentable. Bon, en tout cas, l'équipe norvégienne a pris le photographe anglais David Yarrow pour faire sa photo officielle et ils se sont habillés en viking.
Ouais, incroyable. Super photo.
Alors, il a fallu des maquilleurs, tout ça, parce qu'ils ont fait les coupes de cheveux, les machins. Enfin...
Et là, si vous voulez faire...
Ils ont même mis des dracars en fond.
C'est ce que j'allais dire. Vous voulez faire une syncope, faire une syncope à Monsieur Kogan, et vous prononcez le mot dracar. Vous l'avez fait.
Exactement. C'est exactement ce que j'étais en train de penser, puisque je rappelle pour les amatrices, les amateurs d'histoire qui nous écoutent, que le mot dracar n'est pas du tout une réalité historique, puisque c'est un mot qui a été inventé au 19e. Donc, pour donner un nom au longship viking. Voilà.
Oui, c'est quand on faisait de l'histoire romantique.
Oui, mais en même temps, ça permet aux gens de comprendre de quoi on parle.
D'accord.
Ah oui, d'accord, on en est là. Bon.
Bah, bien sûr.
Vous flirtez beaucoup, beaucoup avec le populisme aujourd'hui.
Oui.
Mais j'ai rien contre le populisme.
On sera d'accord, Monsieur Kogan, hein, celui qui nomme mal les choses participe à la misère du monde.
Bon, alors en fond, il y avait des longs chips qui ressemblaient à des dracars. Allez, ce titre magique, et je l'espère qu'il adviendra, ce temps béni. Les progrès de la fusion permettront-ils à n'importe qui de fabriquer une bombe nucléaire dans son garage ? Mais on l'espère tous, pensant !
Ah oui, qu'est-ce qu'on pourrait bien faire de nos longues soirées d'hiver ? Remarquez, avec une bombe nucléaire, l'hiver, il va durer longtemps.
Allez, je dis, j'en reparlerai plus, mais j'en reparle un petit coup parce que bon, Monsieur Kogan va me dire que les ministres aussi sont pas assez payés. On se demande quand
ça
même.
Ça dépend.
Entre celles qui se rendent à des réunions, franchement, on est loin de la laïcité, et celles qui, comme la ministre des Sports, offrent des pierres à l'équipe des Bleus pour leur porter chance, parce qu'elle estime que les pierres ont du pouvoir. Voilà. Le voilà. Pouvoir des pierres, bravo.
On connaissait le pouvoir des fleurs avec Laurent Voulzy.
Alors espérons qu'ils vont, que les joueurs ne vont pas les mettre dans leurs poches, hein, parce que sinon pour courir, c'est tout de suite plus difficile quand même.
Il faut bien donner un avantage à l'équipe d'en face. Je rappelle quand même que la France
va jouer
contre... Ça y est, M.
Goyen est parti pour la troisième étoile.
La France va jouer contre l'Irak. Bon, voilà, tout est dit, quoi, je veux dire.
Ah bah, faut faire attention, on met les pieds. Hein.
Ah oui, alors bah... Allez, je crois.
Australie, plus de 100 000 blattes de contrebande ont été saisies par des agents de la protection et de la faune sauvage dans un élevage clandestin près de Sydney. Valeur marchande estimée à plus de 122 000 euros. Et là, Madame Henriette se dit, mais qu'est-ce que c'est que
des blattes de contrebande?
Des blattes de contrebande, et oui, parce que figurez-vous qu'en Australie, les gens aiment bien avoir des serpents comme animaux de compagnie, et ça mange des blattes, voilà. Donc, il y en a qui font de la blatte de contrebande.
Okay. C'est de la blatte illégale.
Exactement. Alors, le problème,
oui, à coup de blatte, tout à fait.
Le problème, c'est qu'évidemment, il y a plusieurs sortes de blattes. Et si on importe n'importe quelle blatte en Australie, ben, ça pourrait poser des problèmes.
Oui, voilà. Puis ils ont un peu de retour d'expérience. Pardon, j'en bafouille là-dessus.
Allez, oui, je rappelle quand même que chaque fois que l'Australie importe un nouvel animal, bah, ça ne résout absolument aucun problème de surpopulation en face. Et surtout, ça rajoute un problème. Donc,
voilà, voilà. Mais ça y est, Madame Henriette se dit « Ah bah tiens, je vais me reconvertir dans la blatte de contrebande. »
Bon, non, ni dans la blatte de compagnie d'ailleurs. Non, je suis pas... Non, je reste pas fan.
Alors, ce titre que j'ai trouvé dans un journal sérieux qui s'appelle Le Monde, à la rubrique économie en plus. Alors, c'est en général les endroits où ils font vraiment les titres les moins pourris, mais quand même. MBDA va construire une usine de missiles à côté d'Orléans pour répondre à l'explosion de la demande.
Oh non !
Oui, bravo.
C'est lamentable.
Non, on fait pas des jeux de mots, surtout pas là-dessus. Oh. C'est pas sérieux. Hein.
Allez, je voulais vous parler d'un petit truc.
Ça a changé le monde, hein, quand même.
Ouais. C'est un article du Monde, d'ailleurs, qui est paru à fin mai, le 30 mai, qui est assez rigolo. C'est pas vraiment un article, donc même les illettrés peuvent aller le lire. Puisque c'est le monde en images.
Mais bravo, bravo. Mais
c'est le monde en images.
Monsieur Edmond, vraiment, ce soir,
c'est
collector. Hein.
Et comme je
c'est
sais
que... Je le dis tout de suite, pour les collectionneurs, c'est notre meilleure émission de l'année.
Et comme il y a des amis des animaux, eh bien, vous pourrez aller voir en images les hippopotames de Pablo Escobar.
Ah oui.
Oui.
Alors, c'est devenu une attraction touristique et en même temps une menace pour les habitants et la biodiversité colombienne. Parce qu'évidemment, l'hippopotame n'est absolument pas un animal de Colombie. Mais il faut savoir que Pablo Escobar, donc ce trafiquant, hein, tué dans sa ville de Medellín en 1993, il avait tellement de fric à une époque qu'il ne savait plus quoi foutre de son blé. Bien mal acquis, mais enfin bon. Et donc, il avait un zoo auprès de sa maison, un zoo géant. Il avait fait venir tout un tas d'animaux, dont des hippopotames. Et bien, les hippopotames, ils ont bien aimé le Rio Magdalena. Voilà. Ils s'y sont bien plu, ils sont installés, maintenant ils se sont reproduits, puis alors, voilà. On ne sait plus trop quoi faire. Alors, en 2020, on s'est dit peut-être qu'il faudrait quand même en stériliser certains. Alors évidemment, quand on a demandé qui voulait aller stériliser un hippopotame, il y avait moins de volontaires déjà.
Ah ben c'est sûr, pour leur faire prendre la pilule, chaud. Hein.
Voilà, voilà. Et puis, bon, il faut savoir que ça peut peser plus de 2 tonnes hein, quand même, le bestiau.
Et c'est moyennement convivial, paraît-il.
Ah non, c'est même l'un des animaux les plus agressifs, on y reviendra. Et donc, en plus, il s'est construit évidemment autour de ces hippopotames qui n'ont rien à faire hein, donc en Amérique du Sud. Eh bien, tout un tourisme. Donc il y a des tours opérateurs qui viennent juste montrer les hippopotames de Colombie, ce qui est assez exotique,
alors,
il faut bien le dire.
Les hippopotames de Pablo Escobar, surtout.
Voilà, voilà. Donc il y a tout un tas de gens qui vivent de ça et donc ils n'ont pas du tout envie qu'on stérilise des hippopotames. Alors, donc vous avez donc un magnifique reportage photo de Juan David Duque, Duque, je sais pas comment on dit, donc un photojournaliste chez Reuters, et c'est vrai que ses photos sont magnifiques. Donc, alors, les problèmes de l'hippopotame, c'est aussi qu'ils ont largement perturbé les zones de pêche. Bon, ils ont dézingué des poissons, mais surtout, les pêcheurs, ils n'ont plus du tout envie d'aller où il y a les hippopotames. Hein. Voilà, voilà, voilà. Et puis, bon, ben, il y a les hippopotames qui traversent les routes sans demander l'avis à personne. C'est pareil, une voiture dans 2 tonnes d'hippopotame, bon, ça marche moins bien. Mmh. Alors, qu'est-ce que l'hippopotame ? Eh ben, c'est un grand mammifère semi-aquatique et qui, normalement, est originaire, évidemment, d'Afrique subsaharienne. Et bien que son nom vienne du grec qui signifie le cheval de rivière, et ben, sachez qu'il ne sait absolument pas nager. Voilà. Alors, il respirait sous l'eau, même pas trop, et alors flotter, n'en parlons pas, évidemment. Mais il est surtout connu en Afrique comme étant l'un des animaux les plus dangereux. Et oui, avec les éléphants et les rhinocéros, et ben, ça fait partie des plus gros mammifères. Eh bien, figurez-vous que l'hippopotame est très territorial. Donc, si vous êtes dans son secteur, que vous avez une gueule qui ne lui revient pas, eh bien, il vous charge. Voilà.
Et malheureusement, son secteur est grand.
Oui, et malheureusement pour nous, figurez-vous qu'il arrive à courir à 35 km/h.
Beaucoup plus que nous.
Exactement. Alors, nous, on y arrive, mais quand on s'appelle Usain Bolt, qui sur le 100 mètres arrive à atteindre des vitesses de 37 km/h. Mais bon, tout le monde n'est pas Usain Bolt. Quoi qu'en face d'un hippopotame, peut-être que...
Ça motive.
Alors, pour vous donner un ordre de grandeur, l'escargot fait du 0,05 km/h.
Oui, alors c'est assez rare que les gens soient poursuivis par un escargot de toute façon.
C'est vrai.
Moi, j'ai toujours l'impression qu'ils me poursuivent. Hein.
L'enjeu est quand même assez différent.
Le crabe, 27 km/h. Vous avez déjà été poursuivi par un crabe ?
Malheureusement.
Le crocodile, 34 km/h. Donc là, c'est encore jouable, mais c'est chaud.
C'est jouable. Alors, pour Usain Bolt.
J'ai été encerclé une fois par des caïmans. Je ne le conseille à personne. Voilà.
Ne faites pas ça chez vous.
Le chameau, 40 km/h. Le lézard, 47. La girafe, 76. Alors essayez. Bah, en même temps, vu les grandes pattes qu'elle a, c'est pas très étonnant. Alors, pour échapper à un loup, ça commence à devenir vraiment très compliqué si ça monte à 83 km/h, le loup.
Oui, mais en pointe de
vitesse.
Oui, mais
enfin, quand même. Hein. Vous n'allez pas à ça, même en pointe de vitesse, madame Henriette.
Ah non, mais moi, je ne vais nulle part, de toute façon.
Et donc, évidemment, en haut de tout ça, alors, il y a le kangourou aussi, 89 km/h, quand même, l'autruche, 90. Le gnou.
Vous ne parlez plus du tout des hippopotames, j'ai l'impression.
Non, mais c'est pour faire un petit truc. Le gnou, quand même, 90 km/h. Ben on comprend, non 94 même, mais on comprend parce que bon, le gnou, ben, sa seule survie, c'est de s'enfuir le plus vite possible.
Mais c'est pas le guépard l'animal le plus rapide ?
Et ben attendez, le guépard, il va beaucoup plus vite. Il arrive à 115 km/h sur 300 mètres. Ouais. 115 km/h, madame Henriette. Même votre voiture ne va pas à cette vitesse.
Ça dépend.
Voilà, voilà.
En descente quand même.
Bon, ben les hippopotames sont herbivores, mais ça ne les empêche pas de vouloir vous casser la tête si vous approchez de trop près. Voilà. Alors, la probabilité de mourir d'une rencontre homme-hippopotame, 86% de chances de décéder, c'est plus élevé que la rencontre avec un lion, 75%, ou un requin, 25%. Donc, à choisir, vous voyez. Et alors, grand mystère sur le nombre d'humains qui sont tués chaque année par les hippopotames. Parce que malheureusement, il n'y a pas de statistiques fiables. On l'estime, et vous allez voir, la fourchette est large, entre 300 et 3000 chaque année. Voilà. Malheureusement, évidemment, l'hippopotame est classé par les animaux en voie d'extinction, donc à part en Colombie. Ce qui est un peu étrange. Allez, madame Henriette, c'est à vous dans Je m'en du bien.
Ah ben, ça tombe bien, parce que j'allais vous parler d'animaux aussi. Non. Je voulais vous parler d'une étude qui est en cours. Hein, donc les chercheurs du Muséum d'Histoire Naturelle, vous vous moquiez des chercheurs tout à l'heure. Eh bien, tant pis pour vous, ils reviennent. Ils travaillent beaucoup donc, sur les... Ça suffit. Sur les chiens, la domestication des chiens. Et donc, un récent article s'interroge sur est-ce que le cerveau des chiens a rétréci avec la domestication ? Alors moi, comme ça, de prime abord,
oui.
J'aurais tendance à dire que, vu la débilité de ce choix, nécessairement. mais c'est pas ça du tout.
La débilité de s'être fait de domestiquer choisir... par l'homme.
Bah oui, c'était quand même pas très malin.
Ouais, moi, je connais certains chiens, franchement, bon, ils ont la belle vie, hein, par rapport à avant où il fallait qu'ils fassent des kilomètres pour trouver leur croûte.
Mais enfin, ils ont de mauvaises fréquentations.
Ça peut arriver.
Alors, la domestication des chiens, on a retrouvé donc des vestiges qui permettent de la dater de bien plus avant
que ce qu'on pensait.
Que ce qu'on pensait, exactement. Ah. Donc, on retrouve des proto-chiens. Ne me demandez pas ce qu'est un proto-chien. Hein. On retrouve des proto-chiens il y a 40 000 ans. 40 000 ans, c'est il y a super longtemps. C'est à peu près le moment où l'homme de Néandertal s'éteint.
Hein. À peu près, oui.
Donc, c'est des proto-chiens, on est bien d'accord, c'est pas encore des chiens.
Donc, c'est plus des loups, mais c'est pas des chiens.
Et donc, ces proto-chiens, eux, au contraire, ils avaient un cerveau plus volumineux que celui des loups. Et ça dure à peu près 35 000 ans. Et il y a 5 000 ans, le cerveau, la boîte crânienne, en fait, hein, puisqu'on ne retrouve évidemment pas de cerveau, la boîte crânienne des chiens, qui à ce moment-là sont vraiment les chiens du néolithique, eh bien, elle est beaucoup plus petite.
Ah ouais, c'est l'apparition de TikTok, ça.
Eh ben, probablement, vous voyez, le niveau baisse. En fait, on ne sait pas... Alors, il y a plusieurs hypothèses. Pourquoi ? Alors, peut-être parce que soit il y aurait une sélection faite par l'homme, parce que les chiens qui ont des petits cerveaux sont plus anxieux, plus nerveux. Et donc, pour défendre les troupeaux, pour défendre les villages, c'est des animaux qui ont des instincts de défense et de beaucoup plus développés.
Vous voulez dire qu'ils sont plus primaires ? Ils ont un plus petit cerveau ?
Non, pas du tout. C'est qu'en fait, ils sont plus stressés et plus enclins à réagir, en fait, au danger. Ça, c'est une des hypothèses. L'autre hypothèse, c'est peut-être aussi que, tout simplement, ça a été plus simple pour les plus petits individus de survivre par rapport aux gros, pour gérer d'éventuelles réductions de la quantité de nourriture. Voilà, pour l'instant, ce sont les deux hypothèses. Et il faut se débarrasser, expliquent les chercheurs, de l'idée qu'un chien au cerveau plus petit serait un chien moins intelligent. Ça n'a à peu près rien à voir, en fait. Mais ce qui est certain, c'est qu'actuellement, le cerveau en moyenne, alors les chiens, il y en a de toutes les tailles, mais le cerveau du chien, en moyenne, est 30% plus petit que celui du loup de nos jours. Voilà.
D'accord. Et alors, ça indique quoi, si ça indique pas par rapport à l'intelligence ou tout ça ? Pourquoi
Pardon,
il s'intéresse à ça ?
J'en éternue, parce que ça fait quand même longtemps qu'on sait qu'un cerveau plus petit n'indique pas une intelligence inférieure, monsieur Edmond.
Mais oui, mais alors pourquoi on s'intéresse à la...
Vous allez me ressortir l'exemple des femmes. Hein. Vous allez
non,
me
j'ai
dire
rien dit, mais
la boîte crânienne des femmes est plus petite.
Mais alors, pourquoi on s'intéresse à la taille du cerveau si ça indique rien du tout ?
Bah parce qu'en fait, on voudrait savoir pourquoi on est passé d'un cerveau chez le proto-chien plus gros que celui du loup à un cerveau beaucoup plus petit que celui du loup.
Voilà. D'accord. C'est juste pour ça. Bon.
Oui, bah les scientifiques...
Non, mais je
souvent,
comprends pas les chercheurs, des fois.
Souvent, ce qu'ils cherchent, c'est comprendre.
Ok.
Bon, on va faire un truc plus simple. Pour
voilà, plus simple, monsieur Kogan. Un peu plus simple, madame Mariette.
Il a décidé d'être un fan de Florian Philippot pendant cette émission. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Moi,
écoutez,
Je sais pas qui est ce monsieur, je le connais.
Allez, le défi, c'est...
C'est un footballeur ?
On l'invite à la rentrée ? Bon,
qui ça moi, vous m'invitez à la rentrée, mais je sais pas si je
ça c'est là. Pas sûr, c'est pas sûr que vous soyez sélectionné en
ah non, dites pas plus. Le mot sélectionné, ça me
alors je sais plus quelle sera l'an prochain la saison de Je m'ennuie bien, mais on s'approche là de
l'hiver
de quantité tout à fait considérable. Je vous amène en Corée,
allez, du sud
de la... Oui, bah oui, bah en Corée du Nord, j'évite.
Mais il y a deux Corées, madame Ariette.
C'est
on
vrai,
y peut
mais
rien.
J'évite d'amener qui que ce soit. Voilà. Et j'évite de m'y amener également. De l'actualité économique, ça devrait aller ?
Ouais.
Ah, mais rien ne l'intéresse. Hein.
Non.
Oui, aujourd'hui.
Vivement la rubrique culturelle de monsieur Kogan.
Ah, on se le traîne là. Hein.
J'espère qu'il n'est pas encore allé voir De Gaulle, quoi. Allez, madame Ariette.
Alors, le Il y a un énorme, il y a un géant sud-coréen du commerce en ligne en Corée du Sud qui s'appelle Coupang. Alors Coupang, ils vendent à quasiment deux tiers des Sud-Coréens, mais ils sont basés aux États-Unis.
Ils sont basés.
Ils sont basés. Ils sont officiellement, ils sont, leur siège est aux États-Unis.
D'accord. C'est voilà. L'Amazon coréen, mais
voilà.
D'accord.
Ce qui ne les a pas empêchés de décoper d'une très belle amende par la Commission de protection des informations personnelles, car figurez-vous que, eh bien, ils ont laissé fuiter tout un tas d'informations. Je vous rappelle que leur fichier client, c'est deux tiers des Sud-Coréens. Ça fait beaucoup. Donc, ils ont insuffisamment protégé ces données. Ils ont pris une amende quand même équivalente à 410 millions de dollars.
Et ils l'ont payé tout de suite ?
Et non.
Ah.
Non, non, ils vont contester. Alors, ils vont contester parce qu'ils disent qu'on a insuffisamment pris en compte les mesures de sécurité qu'ils avaient mises après la fuite.
Eh oui.
Eh oui. Hein, bah, ça leur a servi de leçon. On n'est quand même pas gentil de les sanctionner là-dessus.
C'est quand même chouette, ces entreprises qui ils peuvent payer des amendes de 400 millions. C'est fort.
Et donc, vous m'avez fait perdre ce que je voulais vous dire. Oui, les données compromises, quand même, c'était un peu embêtant parce que bon, il y avait les numéros de téléphone, les noms, les adresses. Mais le problème, c'est que quand vous piquez des données aux Coréens sur une entreprise qui livre, eh bien, il y a les codes pour rentrer dans les immeubles.
Mmh.
Voilà. Donc, une grande partie des immeubles coréens ont leurs données compromises.
Les numéros de téléphone, c'est peut-être un peu embêtant parce que comme là-bas, ils font tout avec leur téléphone, ils payent, ils machinent. Ouais. Je comprends.
Voilà. Et donc, ça n'arrive pas qu'en Corée, puisque je suis tombée tout à fait par hasard sur un communiqué, donc, du ministère de l'économie et plus précisément de la répression, de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.
Donc vous êtes de retour en France là, Madame Henriette.
Oui, tout à fait. Exactement, je suis de retour en France. Et figurez-vous que, puisque nous parlons de téléphone, vous savez, ces gens qui vous appellent à longueur de journée pour vous vendre des pompes à chaleur, eh bien figurez-vous que parmi eux, il y en a qui ne sont pas honnêtes.
Non. Mais il s'en passe de belles dans ce pays.
Eh oui.
Mais que fait Darmanin ?
Et l'un d'entre eux a été très lourdement condamné ces dernières semaines.
Oh, donc, le coquin.
Alors,
il vendait des pompes à chaleur miniatures.
L'administration ne communique que maintenant, mais le jugement date de février de cette année. Alors, c'était plutôt malin. Il vendait ses pompes à chaleur. Alors, c'était donc un démarchage qui laissait,
non sollicité,
mais surtout qui laissait accroire aux clients qu'ils allaient recevoir des aides très importantes. Or, les sous-traitants n'étant pas labellisés RGE, et de plus, l'entreprise déposant de façon très aléatoire les dossiers auprès des organismes chargés de distribuer les aides, eh bien, effectivement, une grande partie des clients n'ont soit pas reçu d'aide du tout, soit des aides très inférieures à ce qui était promis, et de fait, se sont retrouvés avec des équipements pour lesquels le reste à charge était beaucoup plus important qu'escompté.
Et alors, dans ce cas-là, il se passe quoi ?
Alors, c'était plutôt malin parce que ces pompes à chaleur étaient installées en Bretagne, mais le gérant de la société n'était pas du tout là. Il était dans le sud-est de la France, en région PACA. Donc, il était beaucoup moins embêté. Bon, ça n'a pas très bien fonctionné, hein, puisque finalement, donc, il a été condamné. Et il a été... Alors, le préjudice est quand même de 2 millions d'euros. Hein,
et donc, les gens qui se sont fait arnaquer, c'est tant pis pour eux ?
Alors, ils vont être partiellement
dédommagé.
Merci, c'est le mot que je cherchais. Donc, le gérant de cette entreprise, dont nous n'avons pas le nom, je le déplore, mais enfin, elle va beaucoup moins bien fonctionner, hein, puisque lui a écopé donc de 2 ans de prison, dont 6 mois ferme tout de même. Une interdiction de gérer une entreprise pendant 5 ans. il a dû provisionner 300 000 euros pour indemniser ses victimes. Et puis, la société a également été condamnée à une amende de 200 000 euros. Voilà.
Très bien. Vive la pompe à chaleur.
Voilà, donc, c'est pas toujours très, très clair. On va pas se mentir. Mais c'est toujours très impressionnant quand même, hein, ce genre de décision, parce que, bon, en général, quand c'est prononcé, c'est qu'il a vraiment fallu abuser, comme disent les jeunes.
Eh bien, quelqu'un qui n'abuse pas, à part du cinéma, Monsieur Kogan, tout de suite dans Je m'ennuie bien.
Absolument. Alors, mes chers compatriotes, notre saison touche à sa fin très prochainement. Alors, très prochainement, et je crois que si on se réfère au début de cette émission, il est temps pour Monsieur Edmond d'avoir des vacances. Hein.
Oui, il est fatigué, moi, là. Hein. Oh là là.
Moi, je me sens bien. Moi, je me sens bien.
Soit il est fatigué, soit il est possédé.
Oui, c'est ça, c'est ça.
Est-ce que je voulais que je récite un poème sur la pomme de terre ? Non, bon, allez-y, Monsieur Kogan.
Non, non, mais je vous en prie, dites ce que vous voulez.
Non, non, allez-y. Allez-y.
Non, mais il y a un traumatisme récent, là, sur les poèmes par rapport à la pomme de terre. C'était l'épreuve d'un brevet hors France, et ça l'a traumatisé. Bon, mais c'est, voilà, on peut pas comprendre, c'est les poètes,
on
ça. C'est, voilà, ils ont des... Comme ça, des
non,
des
ça m'a donné la frite. Hein. Allez-y, M.
Oh,
Kogan.
Oh, bravo.
Oh là là. Alors... aujourd'hui, je vais vous parler de trois films. Alors, pas de films américains, hein, c'est devenu presque rare dans cette chronique. Et nous verrons ensemble que c'est pas parce que ça vient du même pays que c'est la même qualité de cinéma, vous allez comprendre.
Ah, il y en a un qui va être habillé pour l'hiver.
Ah, disons que voilà quoi. Alors, Marie-Elsa Squaldo était connue jusque-là comme réalisatrice de courts-métrages. Mais avec ce premier long, À bras-le-corps, la Suissesse de 40 ans montre une incroyable maturité, une maîtrise parfaite sur un sujet difficile. Hein. En l'occurrence, la condition d'une jeune femme dans un village qui sert de bonne à la bourgeoisie locale, évidemment. Donc, dans la Suisse de... juste d'avant-guerre, début-guerre. Donc, le film doit beaucoup à son interprète principale, Lila Guéno, découverte dans la série Les Témoins, puis vue aussi dans L'Aventure des Marguerites. Emma a 15 ans, choquée par l'hypocrisie de son petit village, abusée par un jeune bourgeois, elle tombe enceinte et devra faire un chemin difficile vers l'acceptation et l'émancipation. Voilà, cette actrice y est magnifique dans cette histoire qui est assez simple, vous voyez, un résumé. Et donc, dans ce rôle qui est donc assez fort. Et un autre personnage est assez intéressant, c'est le pasteur du village, qui, contrairement à tout le reste du lieu, est peut-être moins réactionnaire qu'il n'y paraît que les autres. Et en l'occurrence... dans ce rôle, on retrouve, dans ce rôle de pasteur dépressif, on retrouve Grégoire Collin. Grégoire Collin, qui est aussi à l'affiche donc, du film sur De Gaulle, dans un rôle presque similaire, puisque D'Argentlieu est un prêtre, et c'est dans l'histoire et donc dans le film sur De Gaulle. Et là, il joue un pasteur. Bon, bref. Dans le rôle de la mère, comment ?
Non, non, allez-y, oui, Monsieur Kogan, on vous écoute.
Dans le rôle de la mère, qui est paria, hein, par rapport à un truc qui s'est passé précédemment, on le comprend assez vite, et qui est donc ouvrière à la ville, et qui est incarnée par Sandrine Blanc, qui est bientôt à l'affiche du très attendu Notre Salut, en partie tourné à Limoges, qui sortira fin septembre. Donc on découvre bien plus qu'une tranche de vie un peu triste, ou au moins pour une bonne partie du film. Et donc ce destin tout tracé d'une fille de la campagne, mais aussi celui de la Suisse, faussement neutre en 40, et très vite repositionné politiquement en 45. Hein. Et donc ce film est une ode à la liberté, à la solidarité féminine et ouvrière, et par les temps qui courent, Le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est tout à fait essentiel. Donc, je recommande fortement « À bras-le-corps » de Marie-Elsa Squaldo. Tout autre chose, toute autre ambiance. Sang-ho-yeon, on dit je sais pas.
Ça dépend comment ça s'écrit.
Voilà. Revient après quelques pas dans le milieu des séries, et puis une comédie et un thriller. Et donc, il revient dans l'exercice qu'il a rendu célèbre en 2016 avec « Dernier train pour Busan ».
Ah, vous allez voilà. Nous parler, d'accord.
Eh ben oui.
De colonie. Donc,
absolument. Et donc, « Dernier train pour Busan » qui est devenu un véritable classique du film de zombies, ou devrais-je dire plus exactement du film d'infecté. Ce n'est pas tout à fait pareil, il y a une petite nuance. Et donc, « Colonie », en effet, qui se dit « Gunche » en coréen, raconte donc l'infection à l'intérieur d'une tour, donc en plein Séoul, par une sorte de bioterroriste. Et donc le building dans lequel essaie de survivre un petit groupe est donc mis en quarantaine. Alors existe-t-il un antidote? Pourquoi les infectés ont l'air de se transmettre des informations et donc de générer une forme d'intelligence collective? Qui est donc ce terroriste qui se cache parmi eux? Bon, alors bien entendu, on peut voir derrière cet énième film zombiesque une critique des politiques en temps de crise, une image sévère de notre intoxication aux réseaux sociaux et notre difficulté à nous montrer solidaires, etc. Bon, alors on est en deçà du dernier train, mais on est mieux par rapport au deuxième film qu'il avait fait sur le thème qui s'appelait Peninsula et qui était moyen. Diana June qui elle revient sur grand écran après plus de 10 ans et le moins qu'on puisse dire c'est qu'elle tient la baraque elle toute seule dans ce rôle de chercheuse qu'il ne faut pas chercher voilà, donc écoutez,
l'actrice principale en fait ou...
absolument
ah oui qui est une de Jun Ji Hoon qui est une qui est une actrice très connue qui a disparu en effet assez longtemps des écrans pour des raisons personnelles, enfin de vie familiale tout simplement, et qui est une actrice très connue dans les séries également
le rôle masculin
Shi Chang-wook dont c'est probablement l'un des premiers gros films en fait, c'est plutôt un acteur de série également.
Et oui, je ne suis pas un spécialiste comme vous des sauts.
Mais comme dans Dernier train pour Busan d'ailleurs, un casting très luxueux.
C'est ça. Et là, on voit qu'elle a l'habitude. Et donc, c'est assez astucieux. Alors moi, ce que je retiens de ce film, c'est qu'il n'est pas si horrifique que ça. Ce n'est pas si dégoulinant que ça. Et ce côté qui est intéressant, alors pour le coup, ce n'est pas nouveau, c'était le cas déjà dans Alien en 79. Donc, le fait de transférer la peur sur autre chose que le sang, c'est pour le coup assez nouveau dans un film de zombies. Et donc, ça veut bien dire que le propos est tout à fait ailleurs. Voilà, donc je pense que ce réalisateur a encore quelque chose à raconter. Voilà, donc c'est plutôt rassurant. Et pour moi, c'est pas le film de la semaine, c'est bien moins bien que le film suisse dont je viens de parler, mais c'est quand même pas mal du tout pour un film de genre. Voilà, les Coréens montrent qu'ils savent faire du cinéma. Alors, le raté de la semaine, attention. Le raté de la semaine, c'est un film italo-suisse. Alors, on pourrait se dire, d'habitude, c'est des gens qui savent faire du cinéma, je l'ai dit. Alors, comment vous dire, l'affaire Zanetti, ou Elisa, selon le pays où on va voir le film, avec Roche Dizem, dans le rôle d'un criminologue qui cherche à comprendre donc le personnage joué par l'actrice Barbara Ronchi, donc dans le rôle d'une femme qui a tué sa sœur et qui se souvient pas 10 ans après. Bon, alors le pitch n'était pas inintéressant, comme ça sur le papier on se dit un truc inspiré de faits réels, bon ça on s'en fout à la limite, mais Bon, alors le problème, c'est quand même que quand on fait un film, il faut savoir faire un développement, hein, voilà. Et puis, il faut éviter de conserver le brouillon quand on fait tourner les acteurs, parce que ça se voit. Le réalisateur de L'Intrusa, hein, en 2017, était, il était peut-être plus inspiré à l'époque, hein, mais là, franchement, on a beaucoup de mal à comprendre ce qu'il veut dire, on a beaucoup de mal à comprendre le sens du film. Et puis alors, quand on fait un film dans lequel il y a beaucoup de flashbacks, on essaie quand même à minima de, je sais pas moi, de mettre une coiffure différente à l'actrice, ou tout ça, parce que honnêtement, eh ben, même moi, je t'ai perdu. Donc voilà, si vous voulez perdre du temps, allez voir l'affaire Zanetti. Voilà.
Vous avez fait beaucoup de peine à M. Edmond qui aime bien Roche Dizem.
Ah non, oui, mais il est pour rien, Roche Dizem. Il a fait des daubes aussi. Hein.
Oui. Bah écoutez, oui, mais bon, il a fait ce film excellent et complètement sous-coté sur l'ambassade de France à Kaboul.
À Kaboul, ouais.
Et voilà, je devrais en reparler plus souvent de ce film-là, qui était vraiment tout à fait réussi. Alors, peut-être quelques hommages, si tu nous.
Mais allez-y, faites des hommages.
Il y a eu quelques départs. Quelques départs, et en l'occurrence, dans le milieu du cinéma. Eh bien, écoutez, James Handy était un acteur américain qu'on avait vu dans Bird, dans Jumanji et aussi dans la série X-Files. Patrick Godfrey était un acteur anglais qui avait lui aussi joué dans des classiques hein, comme Maurice ou Les Vestiges du Jour. Christiane Coendy était une comédienne française, une metteuse en scène. Anthony Stewart, Ed, était un acteur anglais, mais connu pour sa présence dans des productions pour certaines américaines. En l'occurrence, il était très connu pour son rôle dans Buffy. Voilà, comme quoi. Bon. Et Sophie Fauché était une actrice québécoise qui avait tourné entre autres avec Denis Arcand et Fred Schoendorfer. Patricia Caselli était une actrice italienne. Ludmila Chusina était une actrice russe. Et Mehdi Sharef était une grande figure du cinéma algérien. En l'occurrence, c'était le réalisateur de le Théorème d'Archimède. Dans le milieu de la musique, j'ai un petit peu moins de noms que d'autres fois, mais Marion Fawcett était une chanteuse irlandaise. Steve Almas était un chanteur américain. En l'occurrence, moi je connaissais pas bien, mais peut-être que Madame Henriette connaît The Suicide Commando, qui était un groupe de punk rock américain. J'avoue que.
À vrai dire, non.
J'avoue que je ne connaissais pas. Par contre, je connaissais évidemment Manuel Lanuel, chanteur breton. À l'inspiration très Léo Ferré, qui chantait aussi bien en français qu'en langue bretonne. Donc voilà, il avait 77 ans. Alors, c'est un petit peu tôt, peut-être, diront certains. Et en tout cas, je fais partie de cela. Dans les autres activités intellectuelles ou artistiques, Daniel Costel était un écrivain et documentariste français. Et entre autres, connu pour toutes ces séries qui s'appelaient... qu'on a vu à la télévision, qui s'appelait Apocalypse, sur la Seconde Guerre mondiale, la Première, etc. Mathieu Despneaux, que je salue, nous avions des amis en commun, puisque Mathieu Despneaux était un auteur et un éditeur de jeux. Voilà, donc ça, son départ un peu prématuré a fait beaucoup de peine à des proches. Et il était connu, entre autres, pour un jeu qui s'appelait Contrario, qui est vraiment très agréable et avec lequel vous pouvez passer d'excellentes soirées. Donc, pensez à lui la prochaine fois que vous sortirez cette boîte de jeu de votre placard. Gordon Stewart Wood était un historien américain, prix Pulitzer en 93. Duane Michals était un photographe new-yorkais très connu. Et Beppe Costa était un poète italien. Mais nous avons appris aussi cette semaine le départ. Alors, ce n'était pas vraiment un artiste, même si le personnage avait beaucoup d'humour. Mais il était surtout connu pour ses travaux sociologique et pour ses prises de position très courageuses en faveur des droits de l'homme. En l'occurrence, je veux bien sûr parler du Suisse. Décidément, la Suisse était au cœur de ma chronique aujourd'hui. Jean Ziegler. Voilà. Alors, que s'est-il passé, chers amis, le 15 juin 1985 ?
Ouh là là !
Un album de The Cure ?
Alors peut-être, mais...
Ça aurait pu.
Ça aurait pu. Mais en tout cas, c'est pas ça que j'ai noté. Si je puis me permettre.
15 juin 1985.
Robert Smith, si tu nous entends.
Ah, j'espère.
Bah, évidemment. C'est un fidèle de l'émission.
Alors, c'est pas encore la cohabitation. Mais on s'en rapproche.
C'est pas une année où on tue des étudiants en masse dans les rues sud-coréennes.
Non.
Mais
c'est en France ?
C'est en Asie.
Ah, c'est en Asie. 15 juin 1985.
Au Japon ?
Absolument.
Oh là là. Bon, je...
Est-ce que ça a quelque chose à voir avec Miyazaki ?
Absolument. Bravo. Bravo.
Alors, voilà. Ouais, chapeau,
donc,
ouais.
Le 15 juin 1985, c'est la création des studios Ghibli. Voilà. Donc, s'il y a un événement. Dans le monde de l'animation, c'est bien celui-là. Et voilà. Et ben, si les gens des studios Ghibli m'entendent, je rêve de venir visiter cet endroit. Voilà. Donc je suis tout
Il y a peut-être des visites, Monsieur Kogan. Vous n'avez pas regardé. Peut-être il y a des tours au Japon où vous faites la visite des studios.
Je suis tout à fait disposé à une invitation.
Sachez-le, Monsieur Kogan est dispo.
Voilà, c'est ça. Alors, joyeux anniversaire, donc, ce 15 juin, à Robert Paxton. Voilà, alors Robert Paxton, oui, ça surprend un peu, parce qu'il a 96 ans, donc, voilà, c'est quand même assez magnifique.
Pas mal, pas mal.
Et Robert Paxton, j'en parle aujourd'hui, donc ça tombe bien que je rende hommage à Robert Paxton, parce que Robert Paxton, c'est le gars qui a mis un petit peu les deux pieds dans la flaque, quoi, puisque c'est l'auteur d'une histoire du régime de Vichy, donc il y a déjà maintenant plusieurs décennies, et c'est grâce à cet historien américain que, en disant une bonne partie des Français ont regardé un petit peu leur histoire en face. Alors, il aura fallu attendre il y a quelques mois pour qu'un historien français fasse une véritable histoire de Vichy. Alors, Aron en avait fait une, hein, quand même, hein, mais donc Laurent Joly récemment, avec d'autres, a pondu Histoire d'une dictature, et c'était bien aussi d'arriver sur ce mot-là. Et pourquoi je parle de Robert Paxton, de Laurent Joly, etc., c'est que cette semaine, c'était une semaine de commémoration, en l'occurrence les 9 et 10 juin. Et pour la première fois, et je le dis avec un petit peu avec beaucoup de colère, mais ma colère est passée. Pour la première fois, donc des élus, des représentants du Rassemblement national se sont rendus aux cérémonies commémoratives du 9 juin. Alors, à Oradour, c'était plus compliqué, mais par contre, à Tulle, ils étaient présents. Et cela a créé beaucoup d'émotions, parce qu'évidemment, les familles des victimes ne voulaient pas la présence des élus de l'extrême droite. Bon, écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Le monde est en train vraiment de mal tourner. Voilà. Donc, peut-être qu'il faut relire Robert Paxton, et puis surtout que, il est encore en vie. En tout cas, il aura 96 ans le 15 juin. Et je voulais en parler.
Ouais, et puis tous ses livres sont intéressants. Il n'a pas fait que Vichy.
Bien sûr, bien sûr. Il fait partie de cette école d'historiens américains qui a beaucoup, beaucoup travaillé. Et d'ailleurs, une de ses élèves, entre guillemets, hein, Farmer, écrira elle aussi un livre sur ce thème. Marie-Hélène Fortin, elle aura 56 ans. C'est la violoniste de Mes Aïeux, groupe de folk québécois. Voilà, donc je suis resté pour les anniversaires en Amérique du Nord. Alors peut-être avons-nous le temps pour quelques dates.
Oui, vous avez quelques dates, vous avez un peu de temps, Monsieur Kogan.
Alors, rappelons quand même que ce week-end des 13 et 14 juin, c'est le festival BD de Saint-Léonard. Alors la semaine dernière, vous m'aviez demandé si j'avais des noms. Eh bien, figurez-vous que je n'ai pas cherché. Voilà. Donc...
Merci. Et après ça vient de faire des remarques, quoi. Mais je rêve.
Non, mais voilà. Bon, en tout cas, je serai sans doute de passage à ce festival. Si j'y arrive d'ailleurs, parce que c'est pas si simple d'aller
à Saint-Léo. Bah oui.
Mais en tout cas, je rappelle que c'est Place Denis Dussou, que c'est toujours un très bon moment. Voilà. Et c'est organisé par mon ami Gilles. Quelques autres dates. Alors ça, j'ai des papiers sous les yeux, mais nous attendrons la prochaine fois. Mais évidemment, nous arrivons dans les fins de saison, soit présentation de nouvelles saisons théâtrales ou spectacles, soit les fins de saison. Alors, par exemple, nous commençons par la Creuse, la Guéretoise de spectacle, en l'occurrence, la dernière soirée de la saison, le vendredi 19 juin. Et donc, écoutez, ça s'appelle comment ? Calpa, c'est ça ? Donc, c'est la dernière soirée. Et donc,
En général, on n'a pas trop d'infos parce qu'en général, c'est un peu surprise, hein, la dernière soirée de la Guéretoise.
Ouais, c'est
pas
ça. Là, j'essaie de lire et en fait, c'est pas si simple. Alors,
non.
Attendez-vous à danser jusque tard dans la nuit.
Tout ce qu'on peut dire, c'est que c'est gratuit. C'est une soirée gratuite.
Absolument. Alors, d'autres dates, évidemment. D'autres dates. Alors, samedi 20 juin, à Médiathèque Jean Giraudoux. Eh bien, écoutez, ça s'appelle Effacement en cours. C'est un vernissage photo. Donc, c'est gratuit aussi, évidemment, et c'est une expo qui commence pour toute la durée de l'été. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous évoquer d'autre ? Eh bien, je crois que je l'avais vaguement dit, mais il y a à nouveau festival au Vieux Château, 19 et 21 juin. Donc, je parle évidemment, quand je parle du Vieux Château, je parle de Vic-sur-Roy, à côté de, enfin pas très loin de Limoges en tout cas, et donc les 19, 20 et 21 juin, ça s'appelle Poésie jour et nuit, c'est la 10e édition, et donc il y aura beaucoup de choses à voir, il y a des tables rondes, il y a des spectacles, il y a de la musique, donc il y aura Mélanie Cascara qui viendra jouer de l'accordéon, et puis il y aura Jacques Bonafé, donc, et puis le contrebassiste Giz qui improviseront donc sur des textes de Verheyen, Rousseau, Bianu, Jacques Darras et d'autres. Donc un très gros programme. Et donc Jacques Bonafé avec Giz seront là dès vendredi soir pour un spectacle libre. Là aussi, c'est gratuit. Prix libre. Prix libre, ça ne veut pas dire gratuit, mais c'est quand même. Donc ça veut dire que c'est accessible. Et puis, le lendemain, le salon reprend dès 11h du matin. Et vous avez donc un gros programme. Et le dimanche, pareil, le dimanche, vous aurez d'autres choses. Et en l'occurrence, le concert donc à la chapelle des Chauvets. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre ? Eh bien, vendredi 19 juin, toujours dans le coin, puisque c'est le domaine de Vareille. Alors, domaine de Vareille, c'est à la Souterraine. Ce coup-ci, et donc, mais c'est un groupe Limougeau, puisque c'est le duo John A.L. Society. Alors, je parle souvent de ce groupe parce que vraiment j'adore ça. Voyage à travers la musique folk américaine. Donc, John Avery Lomax, donc c'était un musicien des années 1930, et donc l'œuvre de Lomax qui a contribué à consolider le socle de la musique folk américaine, dit le prospectus, eh bien, c'est tout à fait ça. Vous allez passer un super moment. Et puis, ce sont deux artistes exceptionnels qui forment ce duo. Et donc, c'est vendredi 19 juin à 21h au domaine de Vareille à la Soute. Qu'est-ce que je vous ai noté d'autre ? Eh bien, je ne sais plus.
Allez, je profite de ce petit intermède pour vous dire vous pouvez vous mettre en route tout de suite. Il y a deux dates qui pourraient vous intéresser en Creuse, Monsieur Kogan. Il y a un Baltrade avec Chaban à Feltin ce samedi 13 juin. Et puis également un concert à Saint-Chabré au château d'Étensane. C'est Ferra Merula et Glenn Trey. Le premier, c'est de la musique médiévale et le second, c'est de la musique celtique. Et c'est également le samedi 13 juin.
Super.
Ah, alors, vous voyez, je vous ai fait une jolie sélection.
Absolument. Alors, mercredi 17, mercredi 17 juin à 19h, c'est une lecture en musique à La Souterraine, à la librairie L'Apothicaire, donc en présence d'Agnès de Sarthe pour l'ouvrage L'oreille absolue. Une conférence, femme artiste des anciens Pays-Bas. Oui, parce qu'on parle souvent de l'école hollandaise en peinture, mais on oublie qu'il n'y avait pas que des hommes. Et donc, c'est mercredi 17 juin à 19h à l'espace Cité. Un concert créole à 19h le jeudi 18 juin à Guéret au Café Terrien. Vous connaissez sans doute mieux que moi cet endroit. Alors, il y a un événement qui s'appelle Haut-parleur. Haut-parleur, alors c'est écrit en écriture inclusive, mais ça ne doit pas faire peur, même aux gens qui ont plus de 60 ans. C'est une soirée, évidemment, où il y aura du slam, du stand-up, de la poésie. Et donc, c'est à la Ruchidée, le 19 juin à 18h30. Une rencontre dédicace avec Jacques Vassal, avoir 20 ans dans les oreilles. Oui, on voit le clin d'œil qui fait référence à la guerre d'Algérie. Eh oui, il faut avoir la référence peut-être. Donc, c'est le 19 juin à 18h30 à la librairie Occitane. Malout, qui est un groupe assez sympa, joueront le 19 juin au Limoges. Green River Sons à la Servoiserie le 19 juin à 19h30, donc le même jour, la même heure, voilà. Pour des musiques qui ne sont pas si éloignées que ça, faudra faire votre choix. Le 19 juin à 20h, j'avais noté aussi un balternatif, donc c'est au tiers-lieu bâtiment 25, c'est un quartier que vous connaissez, en l'occurrence, l'ancienne caserne Marceau. Qu'est-ce que c'est que ça? Vendetta. Alors, Vendetta, c'est à la salle des fêtes de Landouche. C'est vendredi 19 juin à 20h. C'est une pièce. Voilà, c'est une pièce de la troupe La Timélée. Alors, ça, c'est une pièce qui, en fait, parle d'un sujet compliqué. En l'occurrence, c'est un débat, une réunion publique qui tourne mal, évidemment. Sur l'installation d'un parc éolien. Voilà. Bon, c'est assez amusant, bien entendu.
Donc, rien à voir avec le comics et le film, donc.
Rien à voir. Ça s'écrit en trois mots.
Ah.
Fête de l'été dans un trio, c'est au Café Baboum. Le Café Baboum. Donc, c'est à 11h. Alors, ça me semble bizarre, ça, mais c'est parce que c'est la fête et que les concerts sont en deux parties, qu'il y a tout un tas d'événements. C'est organisé par l'association Philathéna et c'est à Saint-Léger-la-Montagne. Voilà. Donc, c'est un petit peu au nord de Limoges, quand même. Voilà. Mais c'est la fête de l'été. Donc, le 20 juin, atelier danse et bal avec Saccad et Valsaviris. Donc là, on est à Émoutier, donc un bal folk aussi le 20 juin. Truman et Dirty Rodeo joueront au Léprechaune en soirée le 20 juin. Je crois que c'est un petit peu la soirée préparatoire de la fête de la musique, puisqu'il y aura Jamie Luton à la brasserie du Charou, je crois que c'est à Bosmy, à 19h. Il y aura une soirée aussi, donc, dansons dans la rue, rue Charles Michel. Mais il n'y a pas que ça, puisque je voulais aussi vous parler d'un événement qui n'est pas de la musique.
Mais alors, vite, monsieur Kogan.
Ah, le théâtre Hélios, samedi 20 juin, donc c'est à Mérinchal, à la Motte Mérinchal, à 20h30. Alors oui, alors vite, puisque le 21 juin, c'est la fête de la musique. Donc là, je ne vais pas tout dire parce qu'il y en a partout.
Non, on aura
partout.
Le temps de la semaine prochaine voilà. de donner quelques,
voilà,
quelques
on
bons plans.
Quelques dates, mais très rapidement dire, parce que je n'ai pas dit grand-chose sur la Corrèze, que le festival disque et BD Brive-la-Gaillarde se déroulera le 21 juin dès 9h à la halle Georges Brassens. Et on reparlera de la fête de la musique la semaine prochaine. Et
merci, salut. Monsieur Kogan. Madame Henriette, une date, mais alors rapide.
Un autre festival, le festival du livre jeunesse, ça s'appelle Mom à la page, et ce sera à Auzance, en Creuse, le samedi 20 juin, de 10h à 18h.
Voilà, et ben c'est tout, on est obligé de plier les bouts.
Bonne semaine.